Graines de curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste chez Elle à Bienne, en Suisse. Dans cette deuxième saison très spéciale, Graines de curieuse vous raconte des histoires. L'espace d'un podcast, je fais don de récits, de slams et même de nouvelles. À tous ceux qui œuvrent pour notre santé, notre sécurité et notre confort, puissiez-vous en être remerciés. Et bien sûr, à tous ceux qui doivent rester chez eux. Je débute cette série à l'heure où chacun de nous doit veiller à se protéger et à protéger autrui. En adoptant toutes les mesures préconisées par notre nation, s'il vous plaît, respectez-les pour que chacun puisse encore vivre longtemps sa propre histoire. Aujourd'hui, nous retrouvons les 5 enquêteurs de la fanfiction inspirée de la série FBI Portée Disparue. Si vous n'avez pas écouté les 2 épisodes précédents, je vous conseille de le faire avant de passer à cette troisième et dernière partie. Dans cet épisode, nous sommes toujours à la recherche du petit Tobias Simmons, âgé de 9 mois. Voilà déjà 6h30 qu'il a disparu du domicile de sa mère. Les 5 enquêteurs poursuivent plusieurs pistes menant à un possible enlèvement. D'abord, celle du père, Stéphane Fortin. Interrogé par Jack Malone, il reconnaît que la mère de l'enfant le faisait chanter. Jack le soupçonne d'avoir organisé l'enlèvement pour récupérer l'argent qu'il lui versait chaque mois. Vivienne Johnson a découvert que la mère elle-même consommait de la coke. Elle a donc sûrement besoin de beaucoup de liquidités. L'agente Spade vient de voir la photo du petit Tobias parmi les données du site SOS International Adoption. Elle s'apprête à se rendre à Norfolk pour y rencontrer la mère de l'enfant en question, qui se nomme en fait Richard. Depuis la voiture qui l'amène à Norfolk, Samantha appelle Martin Fitzgerald pour lui demander d'approfondir les recherches sur Tobias Simmons. Au bout de 5 minutes, celui-ci la rappelle et lui indique que l'enfant s'appelle Tobias Louis Simmons. Il est né le 24 avril 2005 de Kate Simmons et de Stéphane Fortin. Selon les dossiers de l'immigration, il est arrivé sur sol américain le 29 mai 2005 avec sa mère pour raisons professionnelles. Kate a donné l'adresse de la boutique de Greenwich Village comme lieu de résidence. Le chef des enquêteurs Jack Malone reçoit quant à lui un appel de la police scientifique l'informant que la chambre du petit Tobias ne présente aucune empreinte ou trace exploitable. L'agent ajoute qu'il est intrigué car la chambre est vierge de toute trace d'ADN. Pas de cheveux sur la brosse et mis à part un paquet de couches entamées, il n'a pu mettre la main sur aucune couche utilisée. Et l'immeuble ne comporte aucun dévaloir à ordures, il se demande ce que la mère a fait des couches usagées. Samantha Spade se trouve à Norfolk, avec Mrs. Sheridan et le petit Richard. Le bambin présente une ressemblance troublante avec l'enfant figurant sur les clichés de Kate Simmons. Samantha demande à Mrs. Sheridan de l'accompagner au bureau du FBI à New York après avoir expliqué les raisons de sa visite. Bien qu'un peu réticente à l'idée de mêler son bébé à cela, Mrs. Sheridan accepte. Disparu depuis 7h30. Martin Fitzgerald contemple d'un air songeur le courriel envoyé par l'antenne du FBI à Paris à qui il a demandé de lui donner des informations au sujet du petit Tobias Louis Simmons. Or, aucun état civil ne mentionne la naissance de cet enfant. Il est suggéré à Martin de vérifier l'authenticité des dossiers de la sécurité sociale. En outre, les adresses des femmes ayant suivi des cours de puériculture et de premiers secours aux nourrissons sont pure invention, et les personnes dispensant de tels cours ne se souviennent pas de Kate Simmons. Martin transmet cette information à Jack Malone, qui a rejoint Vivienne Johnson en salle d'interrogatoire. En passant devant le bureau de Samantha, le regard de Danny Taylor tombe sur la photographie de Gino Trovatore Jr. Il pousse une exclamation qui fait converger tous les regards vers lui. Cet homme, il le connaît. C'est le portrait robot qu'il tient entre ses doigts. Disparu depuis 8 heures. Les agents spéciaux Fitzgerald et Taylor prennent leur manteau pour aller mettre la main sur le fils Trovatore après un détour chez son père. Plongée dans son mutisme, Kate Simmons refuse de répondre au feu des questions de Vivienne Johnson et de Jack Malone qui tentent de mettre au jour sa personnalité d'affabulatrice en la confrontant à des évidences. Qui sont les personnes en compagnie de son enfant découpées sur les photos? Qui est le bébé que sa voisine entend? Et que porte-t-elle dans la poche kangourou? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de celui-ci en France? Pourquoi sa photo apparaît-elle sur le site de sa mère? Pour qui a-t-elle aménagé une chambre d'enfant? Qui lui fournit de la coke? Finance-t-elle sa drogue avec l'argent envoyé par Stéphane Fortin? Disparu depuis 9 heures. Gino Trovatore Jr. est assis face aux deux agents spéciaux, Fitzgerald et Taylor. Ils ont fini par le dénicher dans un tripot de Little Italy, jouant au poker avec des compatriotes, tous connus des services de police. Le portier a reconnu que son fils se rendait plusieurs fois par semaine à l'appartement de Kate Simmons. Il savait qu'il faisait du trafic de drogue, mais il le juge incapable d'enlever un bébé. Des cheveux noirs en bataille, de larges pectoraux enserrés dans une camisole blanche sous une chemise de bûcheron largement ouverte, un tatouage en forme d'araignée à la base du cou et des yeux froids déplaisent d'emblée à Danny qui connaît ce genre de frimeur. Il attaque l'interrogatoire en demandant à Gino Trovatore Jr. ce qu'il a fait du bébé. Celui-ci réplique qu'il n'est pas mêlé à tout ça. Il reconnaît avoir apporté quelques sachets à celle qu'il appelle Vicky, mais juste pour la dépanner. Devant le mutisme de Kate Simmons, Vivian Johnson laisse Jack continuer l'interrogatoire et va téléphoner au docteur Russell, psychiatre de la jeune femme, qui accepte de parler de sa patiente malgré le secret professionnel. Il explique que l'état mental de Kate le préoccupe depuis plusieurs mois. Il la connaît depuis sa jeunesse, ayant eu à l'examiner suite à diverses fugues de chez ses parents. Elle est mythomane et invente de nombreuses fables pour ne pas être confrontée à la réalité du quotidien. Elle lui a confié que depuis son arrivée à New York, elle consomme régulièrement de la cocaïne. Il a tenté de l'en dissuader, préoccupé par l'enfant qu'il n'a du reste jamais vu, et s'est parfois demandé qui le gardait lorsque sa patiente venait le consulter. Il espère qu'elle ne l'a pas fait souffrir, pire, qu'elle ne s'en est pas débarrassée. Disparu depuis 10 heures. Jack Malone et Vivian Johnson décident d'organiser une confrontation entre Kate Simmons, Stéphane Fortin et Mrs. Sheridan, accompagnée du petit Richard, dès l'arrivée de Samantha Spade avec ces derniers. Danny Taylor et Martin Fitzgerald cherchent à déterminer si Gino Trovatore Jr. a déjà vu l'enfant de Kate Simmons. Il leur dit d'abord que celui-ci était toujours dans sa chambre lorsqu'il a provisionné sa cliente. Mais les enquêteurs ne se laissent pas abuser par ce mensonge. Contre toute attente, Gino Trovatore Jr. leur apprend finalement qu'il n'a en fait jamais vu le bébé. Comme Kate Simmons en parlait sans arrêt, un jour de décembre 2006, il s'est décidé à aller le voir dans sa chambre. Il avait alors trouvé le berceau vide et s'était demandé ce que la jeune femme en avait fait. Celle-ci, refusant de lui répondre, il l'avait menacée de la dénoncer à la police. Elle lui avait alors proposé de lui donner plus d'argent que ce que valaient ses sachets de coke pour acheter son silence. Plus intéressé par le gain que par ce qui avait pu se passer vraiment, il avait tenu sa langue. Il jure que c'est la vérité cette fois et qu'il n'a vraiment aucune idée d'où peut se trouver le fils de celle qu'il appelle encore Vicky. Danny Taylor demande à ses collègues des stupes de s'occuper de lui. Martin Fitzgerald renseigne Jack Malone sur ses aveux, puis il appelle Samantha Spade. Elle lui annonce son arrivée à l'aéroport JFK. Disparu depuis 11 heures. Dans la salle d'interrogatoire, Jack Malone s'en veut de ne pas avoir réussi à percer à jour Kate Simmons. Elle doit vraiment avoir une bonne raison de se taire. Soulagé, il voit entrer Samantha, précédée d'une femme se présentant comme étant Marsha Sheridan. Elle porte un bambin blond. Vivian Johnson et son supérieur observent la réaction de Stéphane Fortin et de la jeune femme. Le père pose simplement les yeux sur l'enfant, sans broncher. Quant à Kate Simmons, elle le regarde, rougit et fait mine de se lever dans sa direction tout en restant muette. Vivian Johnson la retient, la regarde intensément, puis lui demande si cet enfant est le sien. La jeune femme se mord les lèvres, détourne la tête, puis demande à boire. Sentant qu'elle va enfin leur apprendre la vérité, Jack Malone fait signe à Samantha d'emmener Mrs. Sheridan, le petit Richard et Stéphane Fortin dans une autre pièce. Vivian Johnson et Jack Malone attendent que Kate Simmons ait bu pour l'interroger. Celle-ci se met à parler de son enfance. Elle explique qu'elle est née en France et qu'elle n'a pas connu son père. Elle sait seulement qu'il vivait à Paris et possédait une maison de couture. Venue à New York pour suivre l'un de ses amants, sa mère l'abandonnait à son sort, parfois des semaines entières. Afin de ne pas être placée par les services sociaux, Kate avait été obligée de raconter toutes sortes de fables pour couvrir les absences de sa mère. Par la suite, elle s'était investie dans son travail dans le but secret de retrouver son père. Dégoûtée par les liaisons multiples de sa mère, Kate avait décidé que jamais elle ne se marierait. Sa mère lui avait déclaré péremptoire que de toute façon, mal foutue comme elle était vouée à rester une vieille fille sans enfants et sans famille. Ce que sa mère ne savait pas, c'était que Kate Simmons rêvait d'avoir un enfant, rien que pour elle, à chérir et à protéger, mieux qu'elle ne l'avait été elle-même. Arrivée en France, elle avait été séduite par Stéphane Fortin, pensant qu'il serait un bon géniteur. Parallèlement, elle s'était mise à la recherche de son propre père, y consacrant beaucoup de temps, tout en prétendant qu'elle suivait des cours pour démontrer qu'elle serait une bonne mère. Elle avait attendu impatiemment une grossesse qui ne venait pas, puis avait secrètement consulté un spécialiste de la fécondation in vitro. Celui-ci avait refusé de l'aider si elle ne parlait pas de son projet à son compagnon. Par fierté, elle n'avait rien voulu dire, estimant que ne pas pouvoir être enceinte naturellement était un échec. Elle avait alors décidé de feindre une grossesse. Durant les premiers 6 mois de celle-ci, elle avait menti à Stéphane sur toute la ligne, du test de grossesse à ses nouvelles rondeurs qui provenaient seulement d'un excès de sucrerie et de nourriture de fast-food. Pour se convaincre elle-même, elle avait aménagé une chambre d'enfant, s'était acheté une garde-robe pour femme enceinte, et lorsque Stéphane avait émis le vœu de repartir aux USA, elle n'avait pas cherché à le retenir. Poussant le mensonge encore plus loin, elle s'était procuré une carte de sécurité sociale qui lui avait servi à passer les frontières avec une poupée en lieu et place d'un bébé. Les douaniers n'y avaient vu que du feu. Dans l'avion qui l'emmenait à New York, elle s'était arrangée pour que personne ne remarque ce qui se trouvait dans le couffin. Arrivée sur le sol américain, elle avait vécu dans son atelier de couture durant quelques semaines, le temps de trouver un appartement. Sa mère, la pressante question sur ce bébé, elle lui avait envoyé des images et photographies tirées de magazines, piochant en échange les photos du petit Richard sur le site internet d'Eleanor Simmons pour en garnir son album et ses cadres. Viviane comprend alors pourquoi elle avait découpé celle-ci, ne souhaitant pas qu'on connaisse l'entourage véritable de cet enfant. Kate relève en riant qu'elle avait pris beaucoup de plaisir à tromper le portier avec une poupée dans la poche kangourou et à décorer la chambre de Tobias, allant jusqu'à mordiller ses petits livres en carton pour faire plus vrai. Le pyjama en velours orange et la gourmette étaient purs ressorts de son imagination. Viviane lui demande alors qui était le bébé qui lui tire les cheveux sur la photo. Kate Simmons répond qu'il lui a suffi d'aller dans Central Park et de trouver une maman prête à faire photographier son enfant, digne d'un magazine de mode, pour lequel elle prétendait travailler, et le tour avait été joué. Pour la lotion à la fraise, rien de plus simple que de s'en badigeonner les mains et d'aller enfoncer l'oreiller du bébé pour faire croire qu'il y avait dormi. Quant aux pleurs et les rires de l'enfant, Internet en regorgeait. Jack Malone lui demande qui a brisé le cadenas de l'échelle de secours et qui était l'homme décrit par un témoin. Kate Simmons répond que Gino Trovatore Jr. avait tenté de la cambrioler 2 jours plus tôt et qu'il avait alors constaté que Tobias n'était que du vent. Il lui avait suggéré de monter cette affaire d'enlèvement. Kate Simmons y avait vu à la fois l'occasion de donner forme à son mythe tout en s'en débarrassant, d'autant qu'il devenait difficile de feindre que l'enfant grandissait. Kate Simmons plonge ses yeux dans ceux de Vivian Johnson. Elle lui avoue qu'elle ne regrette rien et qu'elle le referait, tant elle avait eu du plaisir à jouer la maman pendant 1 an et demi. Vivian Johnson se fait cinglante et réplique qu'avant de songer à la maternité, elle aurait mieux fait de changer de psy et de se faire désintoxiquer. Conclusion. La nuit tombe sur Manhattan, les fenêtres des gratte-ciel scintillent derrière les vitres mouillées par la neige. Jack Malone regarde la photo de ses filles pendant que Vivian Johnson envoie un SMS à son fils pour l'avertir qu'elle va rentrer. Danny Taylor efface le tableau servant de guide âne pour l'enquête, puis retire la photo du petit Richard en souriant. Il est toujours heureux lorsqu'une affaire se termine sans mordôme. Samantha Spade accepte l'invitation pour dîner de Martin Fitzgerald. Elle n'a pas envie de regagner son appartement vide, cette pseudo-mère lui ayant dangereusement rappelé qu'elle aussi rêve de maternité. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un courriel à info@grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots ou sur la page Facebook dédiée à ce podcast. Et de mettre des étoiles sur iTunes si vous l'appréciez. Prenez soin de vous et de nous et soyez heureux.